Il signe son grand retour sur notre antenne ce samedi. C'est votre rentrée aujourd'hui. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour André-Anne Mellard.
Alors pour cet éditorial consacré à l'Afrique, pourquoi donc revenir ce matin sur la fin chaotique de la présence américaine en Afghanistan alors que l'actualité africaine est si riche? Seriez-vous inquiet, Jean-Baptiste, vous aussi, de ce qu'il adviendra des États sahéliens touchés par le terrorisme lorsque les forces françaises s'en seront allées?
Pour être important, cet aspect des réalités demeure secondaire au regard des leçons que l'Afrique devrait tirer de l'échec des États-Unis, sinon de l'Occident, en Afghanistan. Après 20 coûteuses années passées à tenter d'imposer à ce peuple leur vision de la démocratie, sinon de la civilisation, les Occidentaux l'abandonnent à son sort, d'autant plus triste que ses bienfaiteurs avaient fini par créer chez nombre d'Afghans l'illusion d'un état de bonheur permanent. Voilà ce qui arrive lorsque l'on croit trop à ce que d'autres estiment être bon pour votre peuple. Des dizaines de milliers de morts, tant de milliers de milliards de dollars, et pour finir, cet affligeant spectacle de personnes s'accrochant désespérément aux ailes d'avions en piste pour le décollage. Quel paradis voudrait-on atteindre au prix de tels risques, avec de telles images que même Hollywood n'aurait pas su imaginer? Derrière eux, les Occidentaux ne laissent ni État ni gouvernement et même pas un soupçon d'âme d'une nation. Et les contorsions du président Biden ne suffiront pas à persuader les Américains du bonheur d'avoir perdu.
Alors Jean-Baptiste, quelle leçon l'Afrique doit-elle tirer de tout cela?
Une multitude, la toute première étant qu'aucun peuple n'est plus qualifié que lui-même pour résoudre ses problèmes. Si vous ne donnez pas l'impression d'avoir perdu vos repères et d'être perdu par rapport à ce que vous êtes, aucune nation étrangère, si puissante soit-elle, n'oserait vous imposer ce qu'elle estime être bon pour vous ou faire votre bonheur à votre place. Bien des peuples en Afrique savent inspirer le respect aux grandes puissances et aux autres nations. Ainsi, jamais aucune nation, aucune ancienne puissance colonisatrice n'oserait faire aux Ghanéens des reproches sur ce qu'ils ne font pas bien ou sur ce qu'ils devraient faire de leur destin, parce que les Ghanéens savent où ils vont et n'ont besoin de personne pour leur indiquer ce qui est bien pour eux et où se situent les intérêts de leur peuple. Dans un autre registre, un pays comme le Rwanda, sur lequel il y aurait tant à dire au regard des normes que dictent les maîtres du monde en matière de droits de l'homme comme de démocratie. C'est un silence gêné que l'on observe tout au plus lorsque le Rwanda est en cause, en raison du respect qu'il impose sur d'autres plans. Pour troublant que cela puisse paraître aux yeux de nombre d'Africains, les performances du Rwanda en matière de développement économique sont avancées comme autant de circonstances atténuantes pour relativiser les défaillances démocratiques ou les atteintes aux droits de l'homme.
Alors Jean-Baptiste, suffirait-il de se contenter de réussir dans un domaine pour recueillir des palmes?
C'est justement à dessein que nous citons le Ghana avant le Rwanda. Au pays de Kwame Nkrumah et de J.J. Rawlings, la réussite repose sur les deux piliers. C'est ce qui lui vaut d'être un modèle, et plus que jamais, l'Afrique qui inspirera le respect sera celle qui croit en elle-même et s'applique à bâtir des modèles qui lui ressemblent, ne prenant chez les autres que ce qu'ils ont de meilleur. C'est ce que réussit le Ghana, comme le Botswana et quelques autres. Mais trouver son modèle ne signifie pas laisser quelque autocrate se saisir de ce désir d'authenticité comme d'un slogan pour faire valoir que subir son joug ferait partie du destin de son peuple.